On se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de notre tétralogie sur la passe miroir, qui est la tempête des échos. Donc bienvenue sur le podcast Lectus avec Johanna et Justine. Et Justine, si tu devais avoir un truc d'inversé chez toi, qu'est-ce que ce serait?
Je pense que ce serait la parole, le fait de parler à l'envers.
Ah non, mais oui, ça doit être affreux.
Oui, ça doit être trop chiant.
Ah là là. Ben moi, je sais pas si je devais avoir un truc d'inversé. Est-ce que les oreilles, ça serait grave? Est-ce que ça t'inverserait les sons?
Ouais,
genre t'as le conduit auditif à l'envers.
Ouais, ça peut être un pouvoir. Genre tu peux entendre quelque chose de différent.
À l'envers. Genre les messages subliminaux là. Peut-être. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé, si c'est possible, de ce quatrième tome?
Ah oui, effectivement, on s'est dit qu'on n'allait pas fonctionner comme d'habitude, on vous fait un petit résumé, et après on explique un peu ce que nous on a compris de l'histoire, avec peut-être les révélations,
ouais.
Au fur et à mesure on va essayer de faire quelque chose d'à peu près chronologique,
ouais.
Et en même temps d'échanger ensemble. Parce que c'est vrai qu'on l'a pas trop fait sur cette fin de...
Non.
Bref,
ouais,
on en reviendra. On reviendra à ça tout à l'heure.
Bon.
Mais sur tome 4 donc de La Passe Miroir, le dernier de la tétralogie, on est toujours sur l'Arche de Babel.
Ouais.
L'histoire va se passer à 90% hein, à l'Observatoire des Déviations, dont on a déjà parlé dans le tome 3. Et donc on va retrouver bien sûr Ophélie et bien sûr Thorn, ils se sont retrouvés enfin.
Oui.
Et surtout, bah, on va savoir qui est Dieu, ça on le sait, mais pourquoi? Pourquoi toutes les questions qu'on se pose sur la création des esprits de famille, sur la déchirure, sur l'échange dans le miroir, on va avoir toutes ces réponses dans ce livre et dans cet épisode.
Allez, bah c'est parti.
C'est parti, on se retrouve tout de suite. On se retrouve tout de suite, même pas quelques secondes après la fin du tome 3.
Oui, bah en fait, il y a eu, donc pour rappel, il y a eu une annonce à la radio comme quoi l'arche de Babel avait perdu certaines de ses arches mineures, purée, c'est dur à dire. Donc c'est un peu la panique, parce que tout est en train de dégringoler, donc... Thorn et Ophélie sortent pour aller voir en fait qu'est-ce qui reste. Mais il reste rien.
Non, ça a disparu.
Ah non, vraiment, ouais. Ça a été aspiré dans le néant. Donc là, il va y avoir un espèce d'esbrouf sur Babel où ils vont lancer un recensement de la population.
Oui.
Donc là, les gens, ils savent pas trop pourquoi ils doivent se faire recenser. Bon, en fait, on capte très vite, ça fait un peu rafle du Vel'Dit.
Ah oui, il y a vraiment une ambiance très glauque et très sombre dans ce début. Effectivement, comme les arches mineures, a priori, ont tendance à disparaître, il y a forcément tous des quartiers qui vont disparaître, des gens qui vont disparaître.
Ouais.
Donc la population va se retrouver concentrée sur les grandes arches de Babel.
Mmh.
Et en gros, on va favoriser certaines catégories de population et on va dire déclasser certaines autres. Quoi.
Voilà.
En plus, on l'a dit, sur Babel, ça fonctionne beaucoup par caste.
Mmh.
Donc il y a les fils de Pollux, ceux qui sont dotés de pouvoir, les fils et filles d'Hélène, ceux qui sont sans pouvoir descendants, on va dire, de l'Arche de Babel, mais qui peuvent avoir des restes, des reliquats, d'autres pouvoirs, si éventuellement ils sont venus d'autres arches, n'est-ce pas? Donc il y a toute une affaire entre les natifs et les étrangers.
Oui, voilà, c'est un peu dehors les étrangers, quoi.
Ouais.
Là, ils sont en train de faire de la place parce que, du coup, ils veulent garder que les natifs de Babel. Donc, ambiance.
Mmh.
Du coup, Ophélie, à ce titre, elle va au recensement, elle passe une visite médicale. Visite médicale au cours de laquelle, en fait, elle apprend que ses particules, vraiment à l'intérieur d'elle-même, sont totalement inversées.
Mmh.
Donc, en fait, elle est... mais elle le savait déjà, on lui avait déjà dit à demi-mot, en fait, dans le 3.
Ouais.
Donc là, vraiment, on lui confirme qu'elle est tout inversée. Et surtout, on lui dit qu'elle... ne pourra jamais avoir d'enfant. Et là, elle est en mode, d'accord. En fait, on sent qu'elle conscientise pas trop le fait que jamais, en fait, elle aura des enfants.
Mmh.
Donc, moi, ça m'a fait un peu de peine pour elle, quand même, la pauvre.
Ouais, Moi, ça m'a énervé ce truc-là. Enfin, je sais pas trop ce que t'en as pensé, c'est que ça apporte rien à l'histoire.
Bah, à part mettre du mélo en
voilà,
mode.
Voilà, c'était genre. Et puis, encore une fois, est-ce qu'on a besoin de réduire les femmes
Alors.
À leur fonction reproductrice.
Bah,
bon,
oui.
C'est
Non,
une
mais je suis
question
d'accord.
qu'on peut se poser, mais bon.
Bah, c'est vrai que ça avait pas trop d'intérêt, à part, oui, le fait de tirer un peu la corde sensible, de se dire, ok, elle ne pourra jamais accéder au bonheur d'être mère, alors que, bon,
Voilà,
clairement.
moi, c'est pas, j'ai pas, je suis pas sensible à ce message-là. Voilà, ça a peut-être, ça rajoute, comme tu dis, effectivement, du pathos, du
Ouais.
sentiment et un peu de mélodramatique. Mais moi, ça m'a pas du tout touché, ça m'a même un peu énervé.
Oui, on sent ça, ça se sent. Mais bon, voilà, du coup, elle passe une petite visite médicale où on lui dit qu'elle est vraiment bien, bien inversée et que du coup, elle serait très intéressante, encore une fois, pour l'observatoire des déviations.
Bim, gros tampon sur le front.
Et elle a un giga tampon, genre un peu comme les Goa'uld de. Alors, attends, dans
Stargate.
Stargate.
Oh, oui.
Vraiment, moi, ça m'a fait penser à
C'est
ça,
vrai,
parce
c'est
qu'en plus,
vrai.
c'est lumineux.
Oui.
Donc, les gens se font marquer. Bah, vraiment, là, je trouve
Un gros
que
tatouage.
bah, c'est vraiment les
Ouais,
Juifs avec les étoiles.
les heures sombres.
Voilà, là ça commence à se barrer en sucette. Pendant ce temps-là, donc Ophélie, elle a quand même des. Elle continue à avoir des visions qui deviennent de plus en plus importantes et précises sur la vie de Lali Dieu, qui est, on le rappelle, Dieu.
Dieu.
Et en fait, elle comprend que Eulalie travaillait dans un orphelinat où il y avait des. Enfin, travaillait dans un. Elle était elle-même orpheline au
Oui,
final.
elle-même orpheline de la guerre.
Orpheline de guerre, elle a ses parents qui avaient été déportés et elle était la seule qui en avait rééchappé.
Et elle est arrivée à Babel, on comprend qu'elle a un espèce de service militaire.
Oui, en fait, elle bossait pour l'armée.
Oui.
Voilà, donc là, déjà,
Dans
moi,
un
j'étais vraiment.
projet un peu
Oh là là.
spécial,
Oui, ça fait
enfin
un
voilà,
peu
dont on
truc.
parlera.
Voilà, truc projet secret. Donc voilà, du coup, on en apprend un peu plus. Donc on sait que Eulalie Dieu était quelqu'un qui travaillait pour l'armée, qui a travaillé du coup dans un orphelinat, qui était elle-même orpheline, et elle avait un projet secret avec l'armée qu'on va apprendre au fur et à mesure du livre. Et de l'autre côté, on a toujours Thorne qui en fait a une nouvelle mission de la part des généalogistes, qui va être en fait d'intégrer l'observatoire des déviations, comme de parmesan, pour découvrir en fait ce qu'est le projet. Alors.
Cornu... Attends, le cornucupianisme?
Cornucopianisme,
Cornucopianisme.
qui est en fait la corne d'abondance. Donc là, on nous introduit direct un truc par rapport à cette corne d'abondance qui servirait à faire on sait pas quoi, mais qui est super importante, qui a globalement un rapport avec Dieu, mais on sait pas encore lequel.
C'est ça.
Voilà, du coup, on sait toujours pas comment Eulalie est devenue Dieu, c'est quoi sa part de responsabilité dans la déchirure.
Le lien avec la corne d'abondance,
Ça, on sait pas.
c'est juste que en fait les généalogistes y soupçonnent que l'observatoire abrite cette corne-là.
Oui,
C'est ça.
c'est ça.
Oui.
Oui,
On a
clairement, moi
compris
j'ai
la même
compris.
chose,
Oui,
mais
j'ai compris la même chose. Et que bah justement, comme eux, ils veulent devenir
l'égal de
les gars
Dieu.
de Dieu, bah, ils la veulent aussi cette corne. Donc là, il y a une petite guerre de pouvoir qui commence à se mettre en place. Et voilà, vraiment, il y a toujours beaucoup de questions. Il y en a une aussi, vraiment, oui, que je me suis posée aussi, c'est pourquoi en fait avoir donné un libre arbitre. Et une mémoire en fait aux esprits de
Oui.
famille, si c'est pour leur ôter après. Et pourquoi elle a tous les pouvoirs, mais pas ceux de Arcanter.
Oui.
Enfin, parce que du coup, c'est elle qui a créé, donc normalement, elle pourrait s'approprier la totalité des pouvoirs, tu vois.
C'est qu'elle peut pas le retrouver.
Parce que en fait, voilà, ça c'est
C'est la
dit.
particularité de Arcanter et de Janus. D'ailleurs,
Qui est.
dans les souvenirs, c'est très drôle.
Oui, Janus, on sait jamais où il est,
C'est
il est
ça.
toujours parti en fait dans les souvenirs.
Insaisissable.
C'est ça, donc je pense qu'effectivement elle n'a pas eu le temps de choper son pouvoir avant qu'il s'en aille. Bah, d'ailleurs, si c'est dit, en fait, il est parti avant qu'elle devienne.
Qu'il n'était pas là pendant la déchirure.
Ah, mais oui, c'est vrai,
Ouais,
c'est vrai.
il
Bah, du
était
coup,
barré.
c'est pour ça que d'ailleurs, c'est le seul esprit de
Oui.
famille qui n'a pas son livre de
D'altérer. Il a
d'altéré.
encore toute la mémoire.
Voilà, il a toute sa mémoire, tout à fait.
D'ailleurs, ça va être un enjeu. Bon, c'est une information qu'ont pas le groupe Archibald, Gaël et Renard,
Non.
qui sont arrivés à Arcanter. Mais effectivement, bah, le fait de l'avoir trouvé. D'avoir trouvé Janus, peut-être ça va leur donner quelques réponses.
Quelques pistes, ouais, tout à fait. Bon, Ophélie, finalement, elle va quand même choisir d'aller en fait à l'observatoire des déviations.
pour une visite en premier lieu.
D'abord une visite, elle voulait voir Médiana, je crois.
Oui.
Et en fait, elle va découvrir, elle va voir Seconde, il me semble, qui est la sœur d'Octavio.
Oui.
Je sais pas si elle la voit dès le début ou plus tard.
Quand elle l'intègre définitivement.
Ah ouais. Mais du coup, bon, clairement, dès le début, on sait que le livre, il va se passer à l'observatoire.
Ouais. Oui, clairement.
Des déviations.
Mais donc, comment Ophélie y arrive dans cet observatoire? Est-ce que tu te souviens?
Alors, moi, je m'étais noté que avant, en fait, d'aller du coup à l'observatoire des déviations, elle va voir Octavio, qui est un ancien avant-coureur avec qui elle a fait une partie de ses études au final, et qui travaille en fait maintenant dans un journal en ville.
Oui, qui avait fait. C'est intéressant ce personnage d'Octavio, on n'en a pas trop parlé pendant le tome 3, mais il a fait vraiment un travail sur lui-même. Fils de Lady Septima et donc.
Matrixé par Lux.
Voilà, c'est ça. Finalement, il apprend à la fin du tome 3 qu'on ment. Qu'on a menti aux citoyens de Babel, parce que c'est au niveau de... Non, c'est qu'il a assisté à la mort du sans-peur et presque sans reproche. Et en fait, dans le bulletin officiel, on disait que non, c'était juste un accident.
Oui, alors qu'en fait...
Alors qu'il a été témoin du truc, quoi.
Puis il l'a tabassé, donc
voilà. Et donc là, c'est ça. Et donc là, effectivement, il voit bien le décalage entre le discours et les faits.
Voilà. Et ça lui convient pas du tout, et du coup il va vraiment s'éloigner de l'influence que sa mère pouvait avoir sur lui.
Commence à se poser des questions.
Voilà, et de tout le lavage de cerveau qui est fait par Lux aux habitants de Babel. Donc elle va le voir en fait pour lui demander des informations justement sur le recensement et sur l'observatoire des déviations, puisqu'en fait Octavio lui avait dit que sa petite sœur était là-bas.
C'est vrai, elle se souvient de cette info. Ouais.
Donc elle va en fait voir Octavio pour avoir des infos. Octavio lui dit que c'est vraiment le bordel en ce moment, qu'il y a beaucoup d'échos, que ça perturbe les communications radiophoniques et les appareils qui servent à naviguer en fait dans les cieux, en gros.
Oui, les tramoiseaux.
Les tramoiseaux, tout à fait. Donc, il la met en garde sur l'entrée là-bas en lui disant qu'on peut rentrer, mais pas sortir.
Oui, Blasius aussi,
il lui dit...
y avait fait, parce que lui en est sorti.
Voilà.
Parce qu'il pensait que sa malchance était pathologique. Enfin, l'observatoire l'avait gardé, parce qu'effectivement, il arrive toujours plein de merde.
Alors, il n'y avait pas que pour ça. Hein. Ils l'ont aussi mis parce que...
La pire de conversion.
Les parents, ils ont dit, attendez, mais vous aimez les pipous, mais allez donc vous faire soigner, monsieur. Enfin, bref.
Il y a beaucoup de messages comme ça qui passent au travers de ce livre.
Non, c'est un peu des trucs. Là, ça fait vraiment, je trouve, c'est bien copié sur le nazisme hein, quand même.
Oui, cette partie-là.
Là, c'est flagrant, toutes les références.
Les expériences, le tatouage. Bientôt, on va le voir, la déportation.
Non, mais il est sympa ce, ce quatrième, il est ambiance à fond.
Bisounours.
C'est ça. Donc en tout cas, elle va effectivement prendre des infos. Octavio lui dit vraiment ne va pas là-bas. Enfin, moi je te le déconseille. Mais en même temps, il sait qu'elle est têtue, donc elle va y aller. Il y a effectivement son tampon sur le front qui va finir par
luire
à fond. Et en fait, ils vont devoir se retrouver dans l'amphithéâtre. Clairement, le vélodrome, c'est vraiment la même chose.
Donc, tous les étrangers recensés qui avaient un tatouage sur le front, le tatouage s'illumine, rendez-vous à l'amphithéâtre. Donc, tout le monde s'y retrouve. Impossible de passer outre parce que, bon, quand t'as une loupiote sur le front, on te voit. Donc, tout le monde se rend à l'amphithéâtre. Et donc, c'est là qu'on apprend que, effectivement, pour le bien collectif, pour sauver Babel, il faut que les gens partent.
Voilà, donc, ils les mettent dans des dirigeables pour les dégager, mais barrez-vous, en fait.
Ouais, c'est ça.
Et ça devient la cohue parce que, du coup.
Un petit mouvement de foule,
les personnes ne veulent pas partir parce que Babel, si les personnes ne sont pas de Babel, Babel, ça reste chez eux. Donc, ils ne veulent pas partir, du coup, ils se rebellent. Heureusement, au final, Ophélie, elle arrive à s'enfuir avec Blasius, Octavio.
Octavio, oui, oui.
Je ne sais plus qui.
Avec tout un petit groupe, en fait, qui la suivent. Et en fait, ils sont dirigés par une espèce d'apparition un peu fantomatique.
Oui.
Et ils vont trouver refuge dans la fabrique d'automates de laser.
Oui, tout à fait. Et après, ils vont
rejoindre Ambroise.
Qui est là-bas.
Qui va les rejoindre et donc les garder au chaud. Voilà, c'est ça. Et en fait, Ophélie, elle va se décider du coup à aller à l'observatoire des déviations, donc ils vont la faire rentrer avec justement une livraison d'automates, si je me souviens bien. Ou elle y va d'elle-même?
Non, bah, elle y va d'elle-même, effectivement,
mais
cachée.
Elle se cache, oui, parce qu'elle a son tampon sur le front.
Et en fait, clairement, elle demande asile. Enfin, là, l'observatoire des déviations, elle y va par elle-même, mais c'est un peu la dernière.
Oui, parce que sinon, elle se fait expulser. Et comme elle sait que Thorn, du coup, est missionné aussi là-bas, ouais. Bah, c'est aussi un moyen d'être, d'être proche de lui et de
d'être
l'aider.
Ensemble, tout à fait.
Et du coup, elle va passer des tests pour intégrer, en fait, l'observatoire. Et d'ailleurs, là, c'est vrai que ça m'a un peu surprise, elle doit faire la lecture d'une balle de plomb, je ne sais pas si tu te souviens,
oui, bien sûr.
Qui est la même balle de plomb qui est lue par un visiteur au musée d'Anima dans le premier tome.
C'est ça.
Et c'est cette même balle qui se retrouve là, encore une fois, comme de par hasard.
C'est-à-dire qu'ils savaient, enfin, ils avaient connaissance d'Ophélie, de son histoire, de ce qu'elle faisait. Il y a certaines de ses affaires qui sont arrivées jusqu'à Babel.
Voilà, donc très bizarre. Donc on se dit, bon, c'est vrai que tout de suite, ils en savent plus que ce qui laisse paraître. Et du coup, elle a le droit de garder ni ses gants, ni ses lunettes. Mais finalement, ça n'a pas l'air de trop la déranger parce qu'en fait, elle s'aperçoit qu'elle n'arrive plus à lire avec ses mains.
De moins en moins, oui.
Elle lit presque plus rien, donc il lui faut quand même passer un test devant une assemblée dont Thorn fait partie, elle le reconnaît, même si elle voit pas très bien, elle voit qu'il est là. Et ils lui font passer des tests où elle doit faire des mouvements répétitifs, faire des trucs de gymnastique. Elle sait pas pourquoi elle fait ça.
Non, non.
Elle est prise en photo.
Oui.
Donc vraiment, elle fait des trucs, elle sait pas pourquoi. Et toutes les personnes qui sont dans cet établissement ont un pince-nez sur le nez. Tu sais, avec des petites lunettes.
Oui, des petites. Je me souviens de la lentille, effectivement.
Voilà. Et donc ça, c'est pareil, elle sait pas à quoi ça sert. Mais en tout cas, elle ne sait pas au départ, mais elle apprendra bien vite à quoi ça sert.
Et donc, qu'est-ce qu'on y fait dans cet observatoire des déviations?
Eh bien, on observe les déviations. Non, en fait, c'est toutes les personnes... En gros, c'est ce qu'on... En fait, c'est un hôpital psychiatrique, on va dire,
oui,
entre guillemets. C'est pas vraiment que pour ça, mais c'est pour toutes les personnes qui seraient un peu dignes d'intérêt d'un point de vue scientifique. Donc, ça va être les inversés, comme Ambroise, par exemple. Ophélie, bah du coup, elle allait tout inverser de partout. Ça va les intéresser aussi. Enfin, tout ce qui est
des déviations de pouvoir aussi.
Oui.
Tu sais qu'est-ce qu'elle rencontre quelqu'un dans. Elle va participer à un programme avec différents protocoles et tous les jours avec des, comme tu disais, des exercices répétitifs. Il faut qu'ils regardent des formes géométriques.
Oui,
après,
des
écrivent à l'envers.
Ouais.
Enfin bref, ils sont sur des manèges bizarres. Tu sais, c'est une ambiance un peu foire, désaffectée.
Oui, oui, non mais c'est. L'ambiance est vraiment chelou. Ça ressemble un peu à... Est-ce que tu connais, je pense que oui, le caméléon.
Oui.
Et ben ça fait un peu comme le centre.
C'est vrai.
C'est vraiment des personnes qui auraient un potentiel qui serait intéressant pour faire des expériences. Et bien sûr, il y a aussi un parallèle évident avec les camps de concentration, avec les tests sur les jumeaux, les personnes un peu spéciales, etc. Donc elle va de son plein gré rentrer là-dedans. Déjà au secours. Faut vraiment que. Enfin, là, elle est vraiment déterminée à faire son enquête.
Ouais, et là, ça va exacerber. Enfin, tous ces exercices vont la rendre encore plus maladroite de chez maladroite, quoi.
Ouais.
Sans vraiment qu'il pousse à l'extrême. C'est censé guérir. Enfin, c'est ce qu'ils annoncent, en tout cas, dans ce qu'ils disent au grand public, clairement.
Oui.
Mais oui, c'est censé guérir les inversés. Et en l'occurrence, ça ne fait qu'accroître les déviations.
Oui, c'est ça. En fait, si par exemple, vous avez des petites inversions sur les mots, bah, là, au final, il y a des gens qui n'arrivent même plus à parler correctement. Et on ne sait pas pourquoi, en fait, ils font ça.
Au départ, non, oui.
On ne comprend pas.
Ils ont des espèces de nannies automates qui ressemblent à leur mère. Tu sais, qui les accompagnent partout.
Oui.
C'est vraiment une ambiance... très très bizarre, on les observe, on leur demande rien, ils n'ont pas le droit trop de se parler entre eux.
Non.
À part la petite sœur d'Octavio, seconde, qui elle est laissée un peu plus libre. Ouais, pareil, au niveau de sa description physique, c'était très bizarre, tout son visage est bouleversé.
Ouais. Elle a deux moitiés de visage en fait. Ouais. Elle est.
Elle fait très peur, je trouve.
Ah oui, ça fait vraiment cirque.
Ouais. Freak show.
Voilà, c'est exactement ça.
Ouais. Et elle,
elle fait des dessins.
Voilà.
Des dessins qu'on apprendra son prémonitoire. Mais voilà, elle sert à ça. Elle est un peu plus libre que les autres.
Oui, parce qu'en plus, comme c'est la fille de Lady Septima, qui est une lord... Non, elle n'est même pas luxe, elle. Si, elle fait partie.
Lady Septima ?
Oui.
Oui, elle fait partie.
Du coup, elle a un traitement un peu de faveur comparé à une personne qui n'en serait pas. Donc, Ophélie, elle se retrouve vraiment dans un établissement trop bizarre.
Elle comprend pas trop le sens de ce qui lui arrive, de ce qu'ils font. Et donc, on sent bien qu'il va falloir qu'elle pousse un peu l'enquête. Elle parvient pas tout de suite à retrouver Thorne.
Non, elle va mettre...
Elle va mettre du temps.
Elle va mettre pas mal de temps. Donc, comme on l'a dit, il y a son pouvoir d'animiste ne fonctionne plus.
Mm.
La lecture s'est complètement déréglée, elle lit plus rien. Donc au final, elle a pas ses gants, mais ça va pas la gêner parce qu'en fait, quoi qu'elle touche, tout est flou pour elle. Et
c'est la suite de son agression qu'elle retrouve Thorne, je crois, parce qu'elle est emmenée pour se faire soigner. Et ils arrivent tous les deux à avoir un moment seul.
Je sais plus exactement comment est-ce qu'ils se retrouvent, mais Thorne va lui donner rendez-vous dans la statue qui est en plein milieu de l'observatoire, et il va lui rendre ses gants et ses lunettes qu'il a utilisées, voilà, parce qu'il s'est dit bah ouais, en fait, si elle a ni l'un ni l'autre, comme elle est myope et que en plus, enfin voilà, donc ils arrivent quand même à se retrouver, et Thorne va lui donner quelques pistes sur qu'est-ce qu'ils font ici. Donc, ils vont notamment regarder les dossiers médicaux qui sont conservés à cet endroit, et ils vont regarder les photos qui ont été prises d'Ophélie, et ils vont s'apercevoir qu'Ophélie, elle a une ombre qui est vraiment très dédoublée.
Oui, de plus en plus.
De plus en plus. Et en fait, on comprend que l'observatoire des déviations, le but, c'est d'augmenter la déviation en fait, de l'ombre pour créer un écho.
Oui, c'est ce que j'ai compris aussi.
Voilà. Moi, j'ai compris.
Oui, j'ai compris ça.
Voilà, donc c'est vraiment fait pour ça.
Oui, au départ, c'est le protocole 1, c'est ça. Le protocole 1, c'est les exercices.
Voilà, c'est exacerber en fait le décalage avec son nom.
Voilà, jusqu'à ce que on puisse détacher la personne de son ombre et donc de son écho.
C'est ça.
Et donc après, on passe au protocole 2. Mais on n'y est pas... Pour l'instant, on est au protocole 1.
Voilà, donc elle va trouver quand même pas mal d'informations. Donc il y a toujours la corne d'abondance qui est en filigrane du coup derrière.
On commence un peu à deviner un peu ce que c'est. Enfin, en tout cas, on sait que les couloirs... Tu sais, de l'observatoire sont encombrés d'objets qui ne sont pas finis.
La bouffe est dégueulasse.
La bouffe est dégueulasse. On sent que la corne d'abondance, elle est un peu. Elle ne marche peut-être pas
très bien.
Très bien, ou alors elle a un fonctionnement différent.
Mm.
Mais en tout cas, ça se rapproche du mythe de ce qu'on connaît, de la corne d'abondance. On imagine quelque chose qui fournit des trucs en continu. Une de leurs missions qui vont se donner aussi Ophélie et Thorne, ça va être de créer une diversion pour que Ophélie puisse aller fouiner du côté des bureaux des chercheurs.
Oui.
Parce que parmi les chercheurs, Ophélie va retrouver aussi quelqu'un qu'elle connaît bien.
Elisabeth
qui est rentrée à l'observatoire des déviations. Et
parce que d'ailleurs dans le 3, en fait, les généalogistes lui avaient proposé un contrat.
Mm.
Et qu'elle a accepté, et qu'en fait elle s'est dit « Merde, j'aurais pas dû accepter, on sait pas ce que c'est, en fait c'est qu'elle travaille pour eux.
Mm. »
Et son but, ça va être de trouver, de déchiffrer...
Ouais, craquer le code...
Des livres.
Des livres de
famille. Des livres de famille. Mm. Donc en fait, elle décode les livres de famille pour les rendre lisibles pour les généalogistes. Mm.
Donc effectivement, eux... Ophélie va tomber sur le bureau d'Elisabeth et d'autres de ses collègues. C'est là qu'elle apprendra que les petites lunettes qu'ils ont sur les yeux, ça sert justement à pouvoir dessiner les ombres.
Mm.
Et après, qu'est-ce qu'elle découvre d'autre à part ça, je crois que c'est tout de sa petite observation.
Elle va quand même...
Elle entend parler du protocole... Non, c'est parce que du coup, elle s'enfuit.
Oui.
Par des couloirs qui l'amènent
dans
une chapelle un peu glauque où elle retrouve Médiana en pénitence à genoux
Ouais, qui est...
qui est complètement à l'ouest, elle nous dit qu'elle veut expier, expier quoi, expier comment, on sait pas quoi.
Oui, elle est possédée.
Ouais, elle est complètement possédée, et elle dit qu'elle, elle est bloquée au protocole 2, et qu'elle veut absolument le franchir avant Ophélie. Il y a encore cette espèce de guéguerre, qui sera la meilleure, ouais. C'est assez particulier. Et donc c'est en revenant de ce périple-là que on a connaissance de ce protocole 2 et de la suite de l'aventure. Donc là, Ophélie, elle consent implicitement aux exercices pour que son ombre se dédouble. Enfin, elle sait à quoi ça sert, elle sait, sait maintenant.
Oui, oui. En fait, elle a compris que la corne d'abondance, en fait, elle convertit les échos en matière grâce à un code. C'est technique.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça, complètement.
Voilà, c'est la corne d'abondance, ça convertit un écho en matière. Parce que l'écho, du coup, comme c'est une ombre qui est non palpable, en fait, on nous l'explique, si l'ombre, entre guillemets, le calque de soi-même se détache et qu'il n'y a aucun support pour la fixer, il s'en va, en fait, cet écho. Et du coup, il ne sert à rien.
Oui.
Et le but, en fait, de l'observatoire, c'est de créer un nouvel écho. Comme Eulalie Dieu l'avait fait. Et du coup, la corne d'abondance sert à ça. Bon, on ne sait toujours pas la corne d'abondance, comment c'est, où est-ce qu'elle est, etc. Et surtout, elle comprend aussi que les inversés, en fait, ils ont tendance à attirer les échos. Et que c'est pour ça que l'observatoire fait en sorte d'exacerber, du coup, les déviations. Voilà, donc bon, ça...
Là, c'est qu'en fait, l'observatoire, il crée la matière. Enfin, un écho doit être créé d'une personne. D'une personne sensible aux échos, donc des inversés ou des déviants.
Oui.
Et donc, du coup, ils font travailler, ils se servent de ces personnes-là pour créer des échos, pour nourrir la machine, pour pouvoir créer de la matière derrière. C'est ça?
Ah, j'avais pas compris ça. Moi.
Ok. Oh là là, non, là ça devient.
Ah là là.
Oui.
Non, mais le livre, en fait, il est vraiment. On l'avait déjà dit dans le 3, mais là, le 4e, il faut vraiment s'accrocher à son slip, comme on dit, parce qu'il y a énormément de concepts qui arrivent, de trucs très métaphysiques, de trucs très je fais des trans par terre, il y a des trucs qui se transforment.
Le protocole 2, là.
Le protocole 2, enfin...
C'est la cristallisation, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Ouais, où elle est enfermée dans une pièce un peu hors du temps. Donc là, on soupçonne encore la Meryl de Garde d'avoir fait quelque chose, parce qu'on a l'impression que ça dure des jours. Elle se nourrit pas, elle est à côté d'une machine qui ressemble à un gisant, à un mort, qui fait que répéter en boucle ce qu'elle dit.
Bah, en fait, c'est le premier mot qu'elle dit quand elle rentre dans cette salle, c'est « qui es-tu ?» Et en fait, le truc se met à dire « qui es-tu ? Qui es-tu ? Qui es-tu ?» et en boucle. Et en fait, au final, elle reste dans cette pièce, elle sait pas ce qu'elle doit faire, du coup, elle finit par s'allonger par terre. Et en gros, il y a une espèce de coupole pleine de verre en mode un peu kaléidoscope. Que les gens de l'observatoire qu'elle voit pas mais qui doivent être là du coup font bouger, et en fait ça finit par lui faire des hallucinations, et elle finit par
entrer en transe, comme tu disais.
Voilà, c'est ça, elle rentre en transe, et du coup elle accède en fait au second stade, du coup, qui est la cristallisation.
Mais à force d'entendre un écho, cet écho va s'incarner, ils vont rentrer en dialogue.
Voilà, en fait, tu peux dialoguer avec ton propre écho.
C'est ça.
Et du coup, en fait, l'écho a réussi à se fixer sur un petit automate qui est
un perroquet, ouais.
Qui, en fait, ne dit plus qui es-tu, mais qui ai-je, je sais plus. Et donc, là, forcément, les gars sont très très contents que Ophélie ait réussi à faire ça, parce que c'est la première, du coup, qui arrive à incarner, en fait, à fixer un écho sur un objet. Et sachant qu'en plus, l'écho a changé son... Enfin, il dit pas qui es-tu, du coup, il donne une réponse, même si c'est une réponse qui est pas très bien construite. Donc, Ophélie, après, elle est extraite de cette salle. Elle est nettoyée, lavée, nourrie, huilée, en mode...
ça va être...
en mode divinité, et voilà, donc elle a passé sa phase numéro 2.
Ouais, phase 2, alors encore ce parallèle, j'ai trouvé ce parallèle, genre elle accouche d'un écho, tu sais, genre, t'as pas compris aussi avec, par rapport à la maternité, encore une fois.
Ah non, moi je me suis dit, elle s'élève en fait mentalement.
D'accord.
Non, j'ai pas fait le parallèle. Maternité du tout. Toi, ça t'a trop énervé.
Ouais, du coup, c'est ça, ouais, ça, j'ai vu des trucs, du coup, tout le long du bouquin.
Bah, peut-être, mais non, non, bah, j'ai pas du tout vu ça.
Ouais.
Je me suis dit, bah, ok, elle crée juste son écho, son double, quoi.
Ouais.
Mais c'est vrai que cette partie, elle est vraiment très ésotérique. C'est vraiment la transe, enfin, la transe comme on se l'imagine, quoi.
Ouais. En sachant que bah, elle reproduit le schéma qu'avait fait Eulalie Dieu. Parce que pour l'armée, du coup, bah, elle faisait Eulalie Dieu quand elle était dans l'armée, elle faisait partie de ce projet-là, le cornucopianisme.
Ouais.
Et elle avait dialogué avec son écho par le biais d'un téléphone, c'est ça. Et donc elle avait réussi elle aussi à créer son écho. Et donc la fin du protocole 2, donc création de l'écho, elle arrive au protocole 3.
Bah, le protocole 2, quand même, il y a un truc qui est important, c'est que elle va retrouver un personnage des premiers tomes.
Ok.
Tu te souviens plus qui c'est ?
Alors attends,
c'est le chevalier.
Du premier tome. Oui, c'est vrai qu'il
c'est
est
le
là.
Chevalier qui est un adolescent, toujours avec sa grosse croix en plein milieu du visage.
Il avait été amené par le professeur Lazarus, c'est
et
ça ?
En fait, ben oui, il a été, et c'est notamment pour ça que la balle d'Anima, la balle qu'elle a dû lire pour faire son entrée, en fait, c'est le chevalier qui a donné des informations à l'observatoire pour la tester. Et c'est aussi pour ça que la nounou qui surveillait Ophélie ressemblait trait pour trait quasi à sa mère.
Ouais, okay.
Voilà.
Si, si, effectivement.
Et ça, j'étais en mode, ah, ok, donc en fait...
Les liens se font, okay.
C'est ça.
C'est logique.
Il raccroche un peu, du coup. Donc, le chevalier, lui, il est toujours dans son optique de... lui, en fait, il voulait livrer Ophélie pour passer un marché, en gros, avec l'observatoire pour, en fait, lui, ce qu'il veut, c'est une arche pour lui tout seul. Une arche qui ne va pas tomber. Pour en fait pouvoir recevoir Bérénilde après.
Il est toujours
à fond sur Bérénilde, mais sans sa fille. Il veut pas que Victoire vienne. Il est là en mode, moi je veux la meuf, mais je veux pas la fille. Donc lui, il l'a fait pour ça. Et au protocole 2, elle perd sa faculté à être passe-miroir.
C'est vrai.
Elle le sent, genre vraiment, elle se détache de cette partie. Donc moi je me dis, ok, donc elle s'est élevée, mais elle a dû abandonner une ancienne partie d'elle-même avec laquelle elle était plus vraiment alignée. Donc c'est le pouvoir de passe-miroir, ce qui est un peu dommage. Il aurait mieux fait de perdre ses griffes, mais bon, elle n'a pas vraiment choisi. Et surtout, elle retrouve sa faculté à lire.
Oui.
Elle le retrouve à ce moment-là. Donc moi, ce que j'ai compris, c'est que en gros, pour créer un écho, il faut vraiment renoncer à une partie de soi. Ou en tout cas, la donner pour que l'écho puisse s'incarner. Qu'il faut payer, en fait.
Oui, oui, bien sûr.
Voilà.
Moi, c'est quelque chose qui revient dans le livre de manière générale. On en reparlera pour la fin, mais... Et oui, sur ce protocole 2, elle gagne et elle perd, quoi. C'est un donnant, 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 quoi.
C'est ça. Et après, pour le protocole 3...
Bah, est-ce qu'elle y arrive, ce protocole 3 ?
Non, j'avoue que la fin, moi, elle est...
Ouais. Ok. Bon, c'est moi qui prends le protocole 3.
Ouais, le protocole 3, je m'en souviens pas très bien. Je me souviens juste qu'elle doit prendre le petit train.
Oui, effectivement. Elle arrive dans une... Après être... s'être remis d'aplomb, après des jours passés à créer son écho... on l'amène donc à une gare et on lui dit que en gros bah, les gens qui comme elle ont réussi le protocole 2, ils s'assoient dans le train et ce train les mène à la corne d'abondance. Et donc mais qu'elle a le choix de remonter, de pas y aller, mais bon, si elle veut vraiment aller au bout du mystère, il faut qu'elle le fasse. Donc elle le fait, elle s'assoit dans le train et en fait le train l'amène sous la statue.
Oui,
tu sais, quand elle rentre dans l'observatoire des déviations, elle passe, pareil, dans ce petit train-là. C'était la fin des tests avec les kaléidoscopes qui lui font un mal de crâne, un blackout. Donc elle termine son voyage-là. Donc la corne d'abondance, finalement, aurait refusé son accès à elle, tout simplement.
Oui, et du coup, elle se retrouve face de mémoire à Lady Septima et Thorn, et un autre
personne. Elle monte effectivement dans leur salle secrète, deux, là où ils se retrouvaient, Et ils vont chercher ensemble avec Thorn...
Au columbarium,
là. Oui, au columbarium, voilà, des indices, parce que on lui avait dit qu'il y avait des gens qui sont pas vraiment morts. Et donc, effectivement, qu'arrive-t-il à tous ces...
les personnes qui ont
à tous ces inversés, qui sont là, qui n'en ressortent jamais, qui sont pas guéris, qui ont disparu. Columbarium, comme on a dit, quelque chose pour honorer la mémoire des morts de l'observatoire. Et donc là, elle retrouve cette figure fantomatique
Oui, en fait,
un peu bizarre.
Moi, je crois que c'était l'autre. Pour moi, c'est.
Oui. Moi, je pensais que effectivement.
Bah, c'est... pour moi, c'est l'autre. Bon, jusque-là, oui. À ma lecture, je me dis bon, ok, pareil. C'est l'autre, c'est genre le truc qu'elle a libéré du miroir quand elle est passée.
Mais c'est pas le ce qu'elle trouve, on va dire, de plus pertinent là-bas. Ils découvrent une photo ensemble.
Oui, et c'est Lazarus jeune.
Avec, surtout.
Ambroise.
Ambroise, ouais. Ouais. Ambroise qui n'a pas changé depuis des années.
Ben oui.
Mais sauf que la photo, elle avait 40 ans, quoi.
Oui, voilà. Donc là, on s'est dit, ok.
C'est bizarre, c'est compliqué. Et donc, pendant qu'ils sont à ce columbarium,
ils regardent par la fenêtre.
Oui, qu'est-ce qui se passe?
Et ben, la bonne famille,
ciao,
elle tombe. Voilà, encore un morceau de l'arche de Babel qui tombe, et c'est la bonne famille avec toutes les personnes présentes à l'intérieur.
Avec Octavio et Lady Hélène. Et donc, suite à ça, elle va pas retourner dans le protocole, elle l'a fini de toute manière. Ouais. Donc ils vont décider, non pas de s'enfuir ensemble, parce que quand ils descendent dans la cour, Lady Septima est en train de récupérer Seconde pour s'en aller, parce que bon...
Oui, il y a aussi Elisabeth qui est là.
Oui, Elisabeth aussi, ouais. Tout à fait. Et donc Elisabeth qui part, Lady Septima, voilà, la nomme Lord de Luxe.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais, elle part. Et donc Thorne et Ophélie sont arrêtés par Lady Septima et amenés de force avec le reste des réfugiés de Babel dans un dirigeable. Un dirigeable voilà, où on les entasse et dans lequel il n'y a pas de pilote.
Tiens donc.
Et donc on va les lancer dans la mer de nuages comme ça, tous ensemble. Enfin voilà. Et pareil, petit moment de panique parce que on sait que dans ce monde-là, donc il y a les arches, donc on peut naviguer entre les arches. Il y a une mer de nuages et après, on ne sait pas. Enfin, personne n'est jamais revenu
de ce qu'il y a dessous.
De ce qu'il y a dessous, on ne sait pas. On sait qu'il y a un grand vide et on n'imagine pas autre chose. Et donc ce dirigeable sans pilote va se mettre à dériver petit à petit. Ils vont traverser la mer de nuages. Et Thorne et Ophélie, surtout Thorne, ils vont arriver à mobiliser tout le monde et tous les pouvoirs ensemble
pour diriger le dirigeable.
Donc animer le dirigeable. Et là, ils vont échouer sur une terre qu'ils ne connaissent pas, dans un village abandonné, avec des gens qui ne parlent pas leur langue, qui sont émerveillés de tout. Enfin, il y a un moment comme ça, une nouvelle terre.
Je me souviens, ouais, ça fait très...
très étrange, ouais.
Bah, ça fait un peu, ouais, les anges qui tombent sur une nouvelle terre.
C'est vrai.
Et ça fait un peu les simplets qui les accueillent, quoi.
Ils retrouvent, comme de par hasard, le professeur Lazarus, qui est, comme on disait, aventurier. Qui avait échoué aussi, par un heureux hasard. Il décide de ramener... Thorne et Ophélie, donc à Babel. Et quand ils arrivent, ils se rendent compte que tous les esprits de famille sont arrivés. Sont arrivés, sont tous ensemble, sont tous présents là. Donc ils arrivent, ils retournent à l'observatoire des déviations pour percer le secret de la corne d'abondance. Donc là, avec Lazarus, ils vont parcourir le souterrain, le train et arriver jusqu'à la corne. Et est-ce que tu te souviens à quoi elle ressemble un peu
Ouais, dans mon souvenir, la corne, c'est une cage de Faraday un peu, non?
Ouais.
C'est ça, hein?
Ouais.
Et visiblement, il faut rentrer dedans. Et en vrai, je me souviens pas trop, ça m'a pas trop marqué, mais je sais plus le protocole exact.
Oui, on nous dit que c'est une lumière iridescente dans une cage qui avait été donc découverte avant la déchirure.
Oui.
Et quand on passe au travers, on est transformé. En gros, on passe dans le monde.
Oui, et d'ailleurs, il n'y a pas, je sais pas qui se jette dedans dès le début parce qu'il veut absolument être transcendé ou.
Eh ben, c'est pas le chevalier.
Non.
Si, c'est ça. Non, c'est Médiana. Non, mais ah non, c'est qu'elle, Ophélie lit le train quand et Médiana y arrive. Mais je crois que le chevalier se
jette dedans.
Se jette
dedans. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Il y avait un des personnages qui était un peu... Oui, ça ne m'étonne pas que ce soit lui.
Et donc, ils arrivent à cette corne d'abondance. Et donc, ils comprennent qu'effectivement, c'est plutôt un passage, en fait. C'est pas vraiment... C'est quelque chose... Donc, on traverse la corne et donc on passe dans un autre univers, dans une autre dimension. et on est recraché, mâchouillé, crachouillé. Donc, on peut être incarné dans quelque chose ou passer dans une autre dimension. Enfin, c'est ce que j'ai compris de ça.
Oui, moi, c'est ce que j'avais compris aussi. Après, j'étais...
Mais pourquoi la mécanique, j'ai pas compris. Mais, Mais oui.
Mais du coup, j'ai pas compris la corne d'abondance. Pourquoi est-ce que c'est en rapport avec tous les objets inutiles et la nourriture à profusion qui est faite dans l'observatoire?
Bah, c'est qu'ils n'arrivent pas à coder en fait, la matière qui
Qui mettent dedans?
s'envoie, voilà, qui mettent
Ah oui.
dedans. Eulalie Dieu avait réussi parce qu'elle a créé les esprits de famille.
Oui.
Elle a réussi à faire passer des échos, à leur associer à un programme, typiquement un code informatique, hein, c'est pas,
oui, oui, oui.
C'est cette idée-là. Et donc la corne d'abondance les a recrachés tels quels. Mais du coup, c'est ça que veut percer les généalogistes et l'observatoire. Ils veulent craquer le code, faire créer des choses.
Oui, bah du coup, créer leur propre petite personne, quoi.
Voilà, c'est
Mais
ça.
d'ailleurs, il n'y a pas les deux de mémoire. Est-ce que les deux généalogistes ne se mettent pas aussi dans la cage?
Non.
Ils s'y mettent pas, t'es sûr?
Je crois pas.
Moi, j'avais souvenir qu'ils se mettaient dedans en se paluchant, là.
C'est vrai?
Et que du coup, ils explosaient ou je sais pas quoi. Je sais pas.
Je crois pas, je m'en souviens plus, mais je crois pas. En tout cas, ce que je me souviens aussi, c'est que le professeur Lazarus, ses automates, c'est pas vraiment des machines. C'est que c'est des échos incarnés dans des machines.
Ça m'a pas du tout marqué.
Ouais, c'est que en gros, c'est des personnes. Et pareil, Ambroise, c'est le résultat d'un écho incarné. C'était un des collègues du professeur Lazarus.
Oui.
Il a créé son écho, et
Oui.
c'est cet écho-là, incarné, qui a rendu Ambroise. C'est compliqué du coup.
Oui, parce que en fait, c'est vrai que c'est un peu compliqué la fin du livre parce qu'on comprend que en fait, Eulalie Dieu, du coup, était dans un programme top secret de l'armée, plus ou moins à notre époque, enfin, je sais pas, dans les années 70, j'en sais rien, tu vois, après la guerre, et qu'elle avait pour objectif, elle, vraiment son souhait premier, on ne l'a peut-être pas dit, mais voilà, c'était un monde sans guerre. Et du coup, elle était un peu autrice, donc elle avait écrit des contes de comment elle voit le monde parfait, de son point de vue, avec du coup des esprits de famille qui auraient des pouvoirs et sur lesquels les arches, tout se passerait bien, etc. Donc elle a réussi en fait, effectivement, donc si j'ai bien compris, elle a fait des échos d'elle-même, qu'elle a passé du coup dans la corne d'abondance et qui ont donné les esprits de famille. Et après,
Des
par contre,
échos incarnés,
les
ouais,
échos incarnés.
avec des pouvoirs, parce qu'elle avait codé leurs pouvoirs.
Voilà, parce qu'en fait, le livre, c'est elle qui a inventé un programme informatique, comme tu l'as dit, qui est écrit du coup dans les livres. Et c'est ça qui fait leur code.
Leur
C'est
ADN.
ouais, voilà, c'est le manuel d'utilisation, en fait, de comment ils doivent être, comment ils doivent réagir, etc. D'ailleurs, il y a des souvenirs où elle les punit, et en fait, des fois, elle écrit des trucs où elle rature, en fait, dans leur livre en disant, bah ok, bah là, tout ce que tu vas manger, ça sera dégueulasse. Super. Donc, mais la fin, oui, c'était un peu...
Ouais, cette explication un peu, oui, un peu bizarre. Donc, bon, pour en revenir à ce passage-là, donc il va y avoir enfin, Thorne va s'attraper avec Lazarus ou le chevalier d'ailleurs, je sais plus
Je
trop
crois que c'est
déjà,
Lazarus.
avec Lazarus.
Ouais.
Et donc Lazarus va le pousser dans la cage, va le refermer. Donc Thorne disparaît,
Encore.
encore une fois. Et donc là, sauf que Ophélie, elle va pas le laisser partir. Donc elle va plonger, elle va s'enfermer à double tour avec Lazarus à l'intérieur de la cage. Et elle va passer dans une autre dimension. Donc une dimension dans laquelle elle est seule. Elle va être guidée par la présence fantomatique qu'on suit un peu tout au long du bouquin, qui est en fait l'écho. Non, c'est même pas l'écho,
L'autre.
c'est l'autre. Non, oui, c'est l'autre. Oh, enfin, c'est confusionnant, vraiment.
Ouais.
C'est donc le collègue de Lazarus qui est passé dans l'autre monde, mais qui réussit à faire des petites apparitions
J'avais pas
dans
compris que
l'endroit.
c'était lui.
Ouais, si, c'est lui, oui.
T'es sûr?
Ouais, c'est sûr.
Faudra que vous nous disiez si vous avez compris autre chose parce que moi j'avais pas compris ça.
Et donc, comment elle va s'en sortir? Elle n'arrive pas à trouver Thorn, elle est toute seule, elle n'arrive pas à communiquer avec personne. On nous dit, ouais, c'est un monde qui est très brouillon.
Oui, moi j'avais la sensation que c'était flou, un peu
très
que
coton.
Du brouillard.
Ouais, c'est
voilà,
ça.
Et elle voyait rien.
Oui, c'est ça.
Et elle était perdue là-dedans, et je me dis, ok, mais comment elle va ressortir?
Ouais.
Enfin, là, elle voit rien déjà, donc, et je ne me souviens pas comment elle ressort.
Et bien, en fait, elle trouve un miroir et elle va réussir
Oui.
À passer au travers. Et bah, comme dans sa jeunesse, c'est ses parents qui sont venus avec Artemis sur Babel, sur l'Arche, qui vont la tirer. Donc elle va atterrir dans les toilettes du mémorial. Mais pour changer de dimension, il y a un prix à payer. Et donc elle va se retrouver sans doigts.
Super.
Donc elle a retrouvé son passe-miroir, entre guillemets.
Ouais, mais du coup,
Et elle a perdu son pouvoir de liseuse. Donc elle retrouve sa famille, et donc là, mémorial, branle-bas de combat, puisque bah, y a tous les esprits de famille, il y a Janus qui arrive, on retrouve Archibald, Gaël et Renard qui vont arriver avec Dieu, du coup. Et donc tout le monde se retrouve au même endroit, alors que les arches s'effondrent, un peu vraiment apocalypse et tout ça. Et donc là c'est vraiment, il faut s'accrocher, quoi. On a
Ouais,
un peu
je me souviens que j'étais là en mode, ok, alors déjà c'est compliqué, mais alors là, ça devient délicat.
C'est ça. Donc on a un peu le fin mot de l'histoire parce que tous les acteurs sont réunis.
C'est la dernière scène.
La dernière scène. Et donc, on apprend.
Accrochez-vous. Je sais même pas si ça va être clair.
Si ça va être clair à expliquer, c'est compliqué.
Et ça se trouve, on a mal compris.
Peut-être, peut-être. Tu me diras si c'est ce que tu as compris. Donc, Eulalie Dieu, programme top secret, créer son écho en lien avec la corne d'abondance pour créer les esprits de famille afin de retrouver un monde en paix.
C'est ça.
Ok, jusque-là, on est d'accord.
Jusque-là, on est d'accord.
Elle dialogue avec son écho, qu'elle appelle l'autre.
Oui.
Et elle est dans son orphelinat, elle élève ses esprits de famille. La guerre arrive jusqu'à leur porte, jusqu'à l'orphelinat. Et comme elle dialogue avec l'autre, elle lui dit, on n'a pas une solution, là ça urge, ça presse.
Oui, il faut les protéger.
Il faut les protéger. Il dit, bah si, j'ai une solution, mais c'est... Enfin, du coup, la solution, c'est un peu... Ça va être d'inverser... D'inverser les mondes. Donc, de balancer le monde qu'elle connaît dans le bas, enfin l'envers, et que lui prenne sa place dans l'endroit. Donc en fait, le dieu qu'on connaît, c'est l'autre qui a changé sa place avec Eulalie Dieu dans les mondes.
Oui, en fait, c'est comme si... C'est pareil, il faut voir que le monde a son propre écho, et qu'en gros, là, ils ont mis des choses qui sont dans le monde droit, dans le monde gauche, en gros. Et que, bah, au final, au fil du temps, bah, malheureusement, ça a foutu la merde. Et que l'échange, il n'est pas aussi... comment dire ?
Équitable, oui.
Voilà, équitable, équivalent, et c'est ça qui fait que le monde est en train de se désagréger.
Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, Dieu qu'on pensait être Eulalie, qu'on connaît dans le monde d'Ophélie et Thorn, en fait, c'est seulement son reflet, c'est seulement son écho incarné. Et sauf que cet écho-là, il est persuadé d'être dans son monde d'origine. Et donc, en fait, quand elle est passée dans le miroir, elle a ramené la vraie Eulalie dans le monde.
Et du coup, il manquait un morceau de l'autre côté.
Voilà, il manque. Donc, le but, ça va être de renvoyer l'autre qui est persuadée d'être la vraie Eulalie dans son monde.
Voilà, sauf que elle veut pas.
Sauf qu'elle veut pas.
Elle veut pas du tout parce qu'elle est persuadée que c'est son monde et puis elle veut rester là, etc. Et au final, ils essaient de, je crois, la pousser dans le monde.
Dans le miroir du secrétariat.
Voilà, sauf qu'elle s'accroche au bord, elle veut pas partir.
Et là, on voit Thorn, tel Gollum, qui sort du miroir, qui attrape l'autre.
Et qui l'attire.
Dans son monde.
Pour rétablir l'ordre.
C'est ça. Et donc là, alors le mémorial qui était en train de se fendre en deux entre la partie de l'ancien monde et la partie du nouveau monde. Tout s'arrête. Ophélie se prend une poutre sur la tronche.
Ah oui, c'est vrai.
Et
blackout.
Et donc on arrive à l'épilogue entre guillemets de cette histoire-là. Je sais pas c'est quoi la morale, mais en tout cas elle est en convalescence sur Babel avec Archibald. avec Renard qui finalement n'était pas mort.
Et oui, il était juste assommé ou gardé je sais pas où. Et Victoire, je me souviens plus.
Victoire, oui, c'est vrai qu'on a. Bah, du coup, on a. On vous a pas on fait a cette écrimé, partie-là, hein. Hein, mais vous irez la lire. Elle arrive à retrouver
son corps d'origine. Corps.
Donc tout le monde se retrouve sur Babel, sauf que il manque quand même une personne importante à la vie d'Ophélie. Maintenant, c'est Thorn hein, qui est resté dans le monde d'en bas.
Oui.
Et donc la fin du livre, ça se termine comme ça. C'est donc Ophélie qui va retraverser un miroir à la recherche de Thorn. Il y a une fin ouverte pour ce tome 4. Du coup, on ne sait pas, l'histoire se termine, mais pas vraiment.
On ne sait pas si elle va retrouver Thorn. Parce que, si je me souviens, elle repasse dans le miroir ou dans le monde, l'autre monde, mm-hmm. pour aller le chercher.
Oui.
Ça fait déjà 3 fois qu'il fait faux bond, qu'il part et qu'elle ne le retrouve pas, qu'il revient, mais que... Bon, c'est un peu les amants maudits, quoi.
Ouais, ça commence à être récurrent comme affaire.
Un petit peu. Donc, je ne suis pas, encore une fois, contre les fins ouvertes, mm. mais moi, ça ne m'a pas trop dérangée. Toi, je sais, quand on avait parlé...
Un peu plus. Pareil, je ne suis pas... Alors, j'aime les fins ouvertes, ça ne me dérange pas, mais les fins tristes, j'ai un peu plus de mal. Je trouve que... Ouais, je sais pas, moi, j'aime quand ça se finit bien.
Mais moi, j'ai pas trouvé que c'était triste comme fin.
Ah ouais?
Bah non, c'est juste que...
Elle a juste perdu ses doigts et son mari.
Oui, bon, c'est vrai. Oui, vu comme ça, ça vend pas du rêve.
Ouais, ouais, ouais.
Mais non, c'est dans le sens où vraiment, ils sont tellement accrochés qu'elle irait vraiment dans un autre monde pour le chercher, tu vois.
D'accord, ok.
C'est un peu la métaphore sympa de la fin.
D'accord.
Mais c'est vrai que le dernier tome de la tétralogie, là... Faut vraiment être bien accroché, il y a un peu trop de, comment dire, de métaverse là.
Un peu, oui.
C'est un peu trop, il y a trop d'informations, on n'arrive pas à bien saisir qui est qui, l'autre, j'ai toujours pas compris vraiment qui c'était. C'est un peu délicat, lecture bien riche, l'univers est quand même super cool, ça change des fantaisies des dernières décennies qu'il y a eu, c'est vraiment, il y a plein de choses intéressantes. Mais voilà, le dernier tome, je sais qu'il a déçu pas mal les personnes qui lisaient du coup la saga. Et je comprends aussi parce que comme toi, je suis un peu restée sur ma fin. Mais en même temps, je vois pas comment elle aurait pu finir autrement.
Mmh. Bah, c'est très éloigné du speech de départ, l'histoire de départ. Effectivement,
oui.
C'est visé beaucoup trop et beaucoup trop grand. Mais après, oui, c'est un livre... moi, j'ai adoré. C'est tellement différent de ce que j'ai pu lire... je sais même pas trop quel genre le classer parce que ça fait un peu science-fiction, ça fait un peu fantasy, il y a un peu de steampunk. C'est vraiment la croisée de beaucoup de choses. On a parlé, c'est quand même mature au niveau de l'histoire, mais
avec
des doubles lectures, tu peux le lire ado, tu peux le lire adulte. En sachant que pour les actualités, la série de livres va être adaptée en BD. Alors, je sais pas exactement la sortie, mais en tout cas, ça a été annoncé sur les réseaux. Je sais pas s'il y a une date précise, c'est peut-être début d'année, je crois.
Ouais, il semble. Ouais. Enfin, décembre, je sais plus.
Peut-être, mais en tout cas, c'est imminent. Donc, si ça vous intéresse, lire le livre, ou de regarder, de prendre la BD pour...
Oui, ça peut être une bonne idée cadeau, hein, par exemple, ouais. Pour ceux qui, potentiellement, voudraient pas forcément lire un roman.
N'hésitez pas à laisser des commentaires et nous expliquer ce que vous avez compris
de la passe miroir, parce qu'on se pose encore des questions.
À bientôt.
Salut.